Votre invité, Léa Salamé, est candidat à LR, c'est un très proche d'Alain Juppé, aux législatives dans les Hauts-de-Seine.
Bonjour Gilles Boyer.
Bonjour Léa Salamé.
On va parler politique dans un instant, mais d'abord une question cruciale. Donald Trump pourrait annoncer ce soir que les États-Unis se retirent de l'accord climat. Est-ce que ce serait une catastrophe ?
Ce serait probablement même criminel, et il en porterait la responsabilité devant l'histoire. Cet accord a été vécu comme un progrès dans les négociations multilatérales sur le climat. C'est un sujet très important que nous devons tous porter dans la classe politique, quelles que soient nos sensibilités. Et s'il devait prendre cette décision, ce serait un recul dont il porterait la responsabilité devant l'histoire et qui serait une tâche dans son mandat qui en compte déjà quelques-unes.
Et manifestement, ni Emmanuel Macron, ni Angela Merkel, ni personne n'a réussi à lui faire changer d'avis au G7.
Non, c'est visiblement en effet le cas. Il est d'ailleurs souverain dans cette décision et je crois savoir qu'à l'intérieur de son propre parti, le Parti Républicain aux États-Unis, certains le poussent à ne pas se résoudre à cette extrémité.
On verra ce soir. Mm-hmm. Votre ancien confrère chez les Républicains, devenu ministre d'Emmanuel Macron depuis, Gérald Darmanin, oui, a déclaré hier à l'attention de vous, de son ancien parti, « On vit une révolution et les Républicains n'arrivent pas à le concevoir. On dirait ma grand-mère qui parle en ancien franc. » Est-ce que vous avez l'impression d'être la grand-mère de Gérald Darmanin qui parle en ancien franc?
Ah, j'ai 10 ans de plus que lui, donc ça ne me qualifie pas pour être sa grand-mère, ni même son grand-père, ni même son père. Ce que Gérald veut dire, je pense, c'est que la famille politique des Républicains est traversée dans cette période si particulière par des fractures qui sont aujourd'hui profondes. Et que le défi pour nous, ce sera de continuer à vivre ensemble, malgré ces fractures profondes, à l'avenir.
Mais comment c'est possible de vivre ensemble?
Je respecte, moi, le choix de ceux qui ont décidé de rejoindre le gouvernement. Et je demande qu'on les respecte. Et j'ai entendu des noms d'oiseaux, des invectives, et même des exclusions à leur égard, et je le réprouve. De l'autre côté, nous
notamment,
j'ai entendu le mot de trahison. Enfin, comment peut-on être traître quand on dirige le gouvernement de la France dans une période aussi critique? Je demande qu'on mesure chacun nos propos. À l'inverse, j'entends aussi à l'intérieur de ma famille politique certains qui semblent se réfugier dans une opposition systématique, clivante, comme on a pu la connaître par le passé et que les Français aujourd'hui réprouvent. J'ai choisi une ligne différente. Je reste fidèle à ma famille politique. Ça fait 20 ans que je milite au RPR, à l'UMP, aux Républicains. Je suis candidat aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine, vous l'avez rappelé, sous les couleurs des Républicains et de l'UDI, oui, mais je crois que nous pouvons incarner une droite moderne, une droite ouverte, une droite humaniste qui doit exister et qui doit pouvoir s'exprimer sans être sujette à invective.
Gilles Boyer, vous imaginez aujourd'hui le militant LR? Vous imaginez comme il doit être largué entre ceux de ses leaders qui travaillent avec Macron, ceux de ses leaders qui ne travaillent pas avec Macron mais qui, comme vous, veulent lui tendre la main et ceux qui veulent une opposition ferme. Mais vous mettez parfois la place du militant des Républicains?
Je me mettrai souvent à sa place et j'en vois tous les jours à Meudon, à Sèvres, à Chaville, dans ma circonscription.
Ils ne sont pas largués?
Ils sont largués. Moi, je pense aussi à notre électorat que nous n'avons pas épargné depuis 5 ans avec nos rivalités, le duel Fillon-Copé, notre primaire qui a parfois été brutal, les circonstances de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas épargné notre électorat depuis 5 ans. Et ce sera notre devoir, une fois cette séquence électorale passée, de réfléchir aux raisons qui ont conduit la droite française à connaître 2 défaites consécutives à l'élection présidentielle, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et nous devons mettre fin à une forme d'omerta, au fond, sur l'inventaire et sur les raisons de cette défaite. On peut dire c'est la faute aux médias, on peut dire c'est la faute aux juges. Je trouve ça un petit peu court. Depuis 10 ans, la droite française n'a eu de cesse que de réduire sa base électorale. Il faut s'interroger sur ces raisons-là. Et il faut que plusieurs sensibilités différentes puissent coexister, cohabiter au sein de la droite française pour qu'elle puisse retrouver une chance de reconquérir la confiance des Français.
La faute aux médias, on l'a entendu hier dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui a fait une mise en garde aux journalistes. La presse ne doit pas devenir juge, a dit le président. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur l'affaire Ferrand, hein?
Chacun son rôle. La presse est dans son rôle en révélant les soi-disant, ou les affaires, en l'occurrence celle qui touche Richard Ferrand. La presse est dans son rôle. Mais en effet, c'est pas la justice, elle, de son côté, a pris une décision différente au moment où je parle. Elle a pris la décision de dire que rien ne justifiait aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire. Donc la question aujourd'hui, Ferrand, elle est pas juridique, elle est politique. Et la question que je pose, c'est est-ce que Monsieur Ferrand estime en conscience, qu'il est à même de porter les réformes de son ministère avec suffisamment de crédibilité et de poids politique. J'estime que non.
Qu'il doit démissionner pour des raisons politiques.
Non, j'estime qu'il devrait prendre conscience du fait que lorsque les réformes difficiles vont être annoncées, est-ce qu'il aura, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, la crédibilité suffisante pour les porter? Mais c'est à lui de prendre cette décision.
Ouais. Vous qui êtes toujours le grand ami d'Édouard Philippe, vous lui parlez tous les jours, vous avez écrit des livres ensemble, le fait qu'il fasse campagne pour les candidats d'En Marche, qu'il soutienne les candidats d'En Marche contre vous, contre les candidats Les Républicains, vous ne trouvez pas ça bizarre ?
En ce moment, tout est bizarre, Léa Salamé, dans la vie politique française. Voilà. Je trouve ça logique que le Premier ministre cherche à atteindre son objectif, c'est-à-dire donner une majorité au président et lui-même se donner une majorité pour gouverner la France.
Pas blessant pour un ami, pour l'ami d'Edouard Philippe, de le voir défendre les candidats En Marche. Vous avez un candidat En Marche dans votre, dans votre circonscription.
Oui, on pourrait dire que c'est blessant pour lui que j'ai fait le choix inverse aussi. Donc finalement, mais l'amitié résiste à ce genre de péripéties, si vous voulez. La question n'est pas là. Edouard a jugé que ce qu'il rapprochait d'Emmanuel Macron était plus important que ce qu'il en séparait. De mon côté, j'ai trop d'interrogations sur le programme présidentiel pour rejoindre la majorité aujourd'hui. Je ne rejoindrai pas la majorité. Pour autant, je veux être porteur, si je suis élu, d'une droite disposée à accueillir avec bienveillance et bonne foi les projets qui seront proposés par d'autres, et à les voter s'ils sont bons.
Mais justement, vous dites, j'ai trop d'interrogations sur le programme présidentiel, pardonnez-moi, mais lesquels? Parce que vous dites, la loi de moralisation sur la vie publique, je vais probablement la voter, la réforme du droit du travail, je vais probablement la voter, alors vous êtes en désaccord sur quoi?
C'est pas un hasard si ces deux projets sont les deux premiers, parce que Emmanuel Macron sait bien que nous sommes un certain nombre à droite à les approuver. Pour autant, sur la politique fiscale, j'ai des interrogations majeures, que veut-il faire des 35 heures, quelle réforme des retraites il nous propose, tout ça, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Et il a été élu sans préciser en détail son projet sur tous ces sujets. Et donc aujourd'hui, je demande des précisions et aujourd'hui, je ne peux pas lui signer un chèque en blanc et un blanc-seing. Je ne lui prête pas de mauvaises intentions, ni à lui, ni à son gouvernement. Pour autant, je ne veux pas, en rejoignant la majorité, me sentir corseté, pieds et poings liés par ce projet.
Si vous êtes élu député, est-ce que vous voterez la confiance à Edouard Philippe ?
La confiance, elle se vote sur la base d'une déclaration de politique générale que je suis curieux d'entendre.
Vous nous faites croire que vous ne voterez pas la confiance à Edouard Philippe ?
Non, mais je ne l'exclus pas de la voter et je n'exclus pas de ne pas la voter. Voilà, parce que ce serait incohérent avec ce que je viens de vous dire. Je suis prêt à entendre, avec bonne foi et bon sens, cette déclaration de politique générale. Et si elle me semble globalement aller dans le bon sens, je la voterai, ce qui ne m'empêchera pas ensuite de voter contre les mauvais projets que ce gouvernement pourrait présenter.
Gilles Boyer était notre invité, merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Race Campagne, chez Lattès, où vous racontez les coulisses de la campagne malheureuse d'Alain Juppé.
Oui, ça paraît bien loin.
Merci à vous et belle journée.
Merci Léa Salamé. Tout est bizarre en ce moment, sauf Charline Vanhoenacker, le point de repère de cette matinale. Il est 8h moins 3.